Chapitre 4. De la vieille Europe au nouveau monde. Nous venons d'étudier les métamorphoses du capital au Royaume-Uni et en France depuis le XVIIIe siècle. Les enseignements sont convergents et complémentaires. La nature du capital s'est totalement transformée, mais son importance globale n'a guère changé. Pour mieux comprendre la diversité des logiques et processus historiques en jeu, il nous faut maintenant étendre l'analyse à d'autres pays. Nous allons commencer par examiner l'expérience de l'Allemagne, qui complète et enrichit le panorama européen. Puis nous étudierons la question du capital en Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Nous verrons que le capital prend au Nouveau Monde des formes tout à fait particulières et spécifiques. D'abord parce que la terre est tellement abondante qu'elle ne vaut pas très cher, ensuite du fait de l'importance prise par le système esclavagiste, et enfin car ce monde en perpétuelle croissance démographique tend à accumuler structurellement moins de capital relativement au flux annuel de revenus et de production que la vieille Europe. Cela nous conduira à poser la question des déterminants fondamentaux du rapport capital-revenu dans le long terme, qui sera examiné dans le prochain chapitre, en étendant l'analyse à l'ensemble des pays riches, puis à la planète tout entière, dans la mesure où les sources le permettent. L'Allemagne. Capitalisme rhénan et propriété sociale. Commençons par le cas de l'Allemagne. Il est intéressant de comparer les trajectoires britanniques et françaises aux évolutions allemandes, en particulier sur la question de l'économie mixte, dont nous venons de voir l'importance pour la période de l'après-guerre. Les données historiques allemandes sont malheureusement plus disparates, compte tenu notamment de l'unification tardive du pays et des multiples changements territoriaux, et ne permettent pas de remonter avant 1870 de façon satisfaisante. Les estimations que nous avons établies pour la période postérieure à 1870 permettent toutefois de faire apparaître clairement les similarités avec le Royaume-Uni et la France, ainsi qu'un certain nombre de différences. On constate tout d'abord que l'évolution d'ensemble est similaire. D'une part, sur longue période, les terres agricoles ont été remplacées par le capital immobilier, industriel et financier. D'autre part, le rapport capital-revenu n'a cessé d'augmenter depuis la Seconde Guerre mondiale et semble en voie de retrouver son niveau d'avant les chocs des années 1914-1945. Voir graphique 4.1. On notera que l'importance des terres agricoles en Allemagne à la Belle Époque est plus proche du cas français que du cas britannique. L'agriculture n'a pas encore disparu outre-Rhin. Et que le capital industriel allemand est plus élevé que dans les deux autres pays. En revanche, les actifs étrangers sont, à la veille de la Première Guerre mondiale, deux fois plus faibles en Allemagne qu'en France, environ 50% du revenu national contre plus d'une année, et quatre fois plus faibles qu'au Royaume-Uni, près de deux années de revenu national. C'est pour une large part la traduction du fait que l'Allemagne n'a pas d'empire colonial, ce qui génère d'ailleurs de très fortes tensions politiques et militaires. On pense notamment aux crises marocaines de 1905 et 1911, au cours desquelles le Kaiser entend contester la suprématie française au Maroc. Cette concurrence exacerbée entre puissances européennes pour les actifs coloniaux a de toute évidence contribué au climat menant à la déclaration de guerre de l'été 1914. Nul besoin de souscrire à toutes les analyses de Lénine. L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, est écrit en 1916, pour partager cette conclusion. On remarquera également que l'Allemagne a accumulé, grâce à ses excédents commerciaux, d'importants actifs étrangers au cours des dernières décennies. Au début des années 2010, la position extérieure de l'Allemagne s'approche de 50% de son revenu national, dont plus de la moitié accumulée depuis 2000, soit quasiment le même niveau qu'en 1913. Cela reste faible par comparaison aux actifs étrangers français et britanniques de la Belle Époque, mais c'est considérable par comparaison à la position actuelle des deux ex-puissances coloniales qui est proche de zéro. La comparaison du graphique 4.1 représentant l'évolution du capital en Allemagne entre 1870 et 2010 et les graphiques 3.1 et 3.2 consacrés au Royaume-Uni et à la France montre à quel point l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont connu des trajectoires historiques fort différentes, et ont, dans une certaine mesure, inversé leurs positions respectives depuis le XIXe siècle. Compte tenu des très forts excédents commerciaux allemands actuels, il n'est pas impossible que cette divergence s'amplifie à l'avenir, nous y reviendrons. Pour ce qui concerne la dette publique et le partage entre capital public et privé, la trajectoire allemande est assez proche de la trajectoire française, avec une inflation moyenne de près de 17% par an entre 1913 et 1950, soit des prix multipliés par plus de 300 entre ces dates, contre à peine 100 en France. L'Allemagne est le pays par excellence qui a noyé sa dette publique dans l'inflation au XXe siècle. Malgré de forts déficits, pendant chacune des deux guerres mondiales, l'endettement public dépasse brièvement les 100% du PIB en 1918-1920 et les 150% du PIB en 1943-1944, l'inflation permettra à chaque fois de ramener très rapidement la dette à des niveaux très faibles, à peine 20% du PIB en 1930 comme en 1950. Voir graphique 4.2. Cela étant, ce recours à l'inflation a été tellement extrême et a déstabilisé si violemment l'économie et la société allemande, notamment pendant l'hyperinflation des années 1920, que l'opinion publique allemande est ressortie fortement anti-inflationniste de ces épisodes. Le chiffre d'inflation moyenne de 17% par an entre 1913 et 1950 ne prend pas en compte l'année 1923, où les prix sont multipliés par 100 millions entre le début et la fin de l'année. C'est ainsi que l'on se retrouve aujourd'hui dans la situation paradoxale suivante. Le pays qui a le plus massivement utilisé l'inflation pour se débarrasser de ses dettes au XXe siècle, l'Allemagne, ne veut pas entendre parler d'une hausse des prix supérieure à 2% par an. Le pays qui a toujours remboursé ses dettes publiques, y compris au-delà du raisonnable, le Royaume-Uni, a une attitude plus souple et ne voit pas de mal à ce que sa banque centrale achète une bonne part de sa dette publique et laisse légèrement filer l'inflation. Pour ce qui concerne l'accumulation d'actifs publics, le cas allemand s'approche là encore du cas français, avec d'importantes participations publiques dans le secteur bancaire et industriel dans les années 1950-1970, qui ont été en partie vendues depuis les années 1980-1990, mais qui sont loin d'avoir totalement disparu. Par exemple, l'État régional de Basse-Saxe détient aujourd'hui encore près de 15% des actions et 20% des droits de vote garantis par la loi, ce que l'Union européenne cherche d'ailleurs à contester, de Volkswagen, premier constructeur automobile européen et mondial. Dans les années 1950-1970, compte tenu de la dette publique quasi nulle, le patrimoine public net avoisinait une année de revenu national en Allemagne contre à peine 2 années pour le patrimoine privé qui était alors à un niveau très faible. Voir graphique 4.3. De la même façon qu'en France, la puissance publique détenait entre 25 et 30% du capital national outre-Rhin pendant les décennies de la reconstruction et du miracle économique allemand. Et de même qu'en France, le ralentissement de la croissance depuis les années 1970-1980 et l'accumulation de dettes publiques, qui avait commencé bien avant la réunification et s'est poursuivie depuis, ont conduit à un renversement complet au cours des dernières décennies. Le patrimoine public net est presque exactement nul au début des années 2010 et les patrimoines privés qui n'ont cessé de progresser depuis les années 1950 représentent la quasi-totalité du patrimoine national. Il existe toutefois une différence significative de niveau entre la valeur du capital privé en Allemagne par comparaison à la France et au Royaume-Uni. Les patrimoines privés allemands ont énormément progressé depuis l'après-guerre. Ils se situaient à un niveau exceptionnellement faible en 1950, à peine plus d'une année et demie de revenu national, et ils atteignent aujourd'hui plus de 4 années de revenu national. Le phénomène de reconstitution de la fortune privée au niveau européen ne fait aucun doute, comme l'illustre de façon spectaculaire le graphique 4.4. Il n'en reste pas moins que la valeur des patrimoines privés allemands se situe au début des années 2010 assez sensiblement au-dessous des niveaux britanniques et français. À peine plus de 4 années de revenu national en Allemagne, contre 5-6 années en France et au Royaume-Uni, et plus de 6 années en Italie et en Espagne, comme nous le verrons dans le prochain chapitre. Compte tenu du niveau élevé d'épargne allemande, ce faible niveau des patrimoines allemands comparé aux autres pays européens constitue dans une certaine mesure un paradoxe, peut être en partie transitoire, et qui peut s'expliquer de la façon suivante. Compte tenu des limites des sources disponibles, il est également possible que cet écart s'explique en partie par divers biais statistiques. Le premier facteur à prendre en compte est le faible niveau des prix immobiliers en Allemagne par comparaison aux autres pays européens, qui peut en partie s'expliquer par le fait que les fortes hausses de prix qui ont eu lieu partout ailleurs au cours des années 1990-2000 ont été bridées outre-Rhin par l'unification allemande, qui a conduit à mettre sur le marché un grand nombre de logements à bas prix. Pour justifier un possible écart à long terme, il faudrait toutefois des facteurs plus durables, par exemple une plus forte régulation des loyers outre-Rhin. En tout état de cause, la majeure partie de l'écart avec la France et le Royaume-Uni provient non pas de la différence dans la valeur du stock de logements, mais bien davantage de l'écart concernant la valeur des autres capitaux intérieurs, c'est-à-dire principalement le capital des entreprises. Voir graphique 4.1. Autrement dit, l'écart ne provient pas tant de la plus faible capitalisation immobilière allemande que de la plus faible capitalisation boursière des entreprises. Si l'on utilisait pour mesurer le total des patrimoines privés non pas la valeur de marché des sociétés et des actifs financiers correspondants, mais leur valeur de bilan, c'est-à-dire la valeur comptable obtenue en cumulant les investissements inscrits à leur bilan et en déduisant les dettes, alors le paradoxe allemand disparaîtrait. Les patrimoines privés allemands passeraient immédiatement à des niveaux français et britanniques, entre 5 et 6 années de revenu national au lieu de 4 années. Nous reviendrons dans le prochain chapitre sur ces complications purement comptables en apparence, mais en vérité très politiques. À ce stade, contentons-nous de noter que ces plus faibles valeurs de marché des entreprises allemandes semblent correspondre à ce que l'on appelle parfois le modèle de capitalisme rhénan ou stakeholder model, c'est-à-dire un modèle économique où la propriété des entreprises appartient non seulement aux actionnaires, mais également à un certain nombre de parties prenantes ayant un intérêt à agir, les stakeholders, à commencer par les représentants des salariés, qui disposent dans les conseils d'administration allemands de voix délibératives, et non seulement consultatives, sans qu'il soit nécessaire de détenir des actions, ainsi que, dans certains cas, les représentants de l'État régional, des associations de consommateurs, de défense de l'environnement, etc. Il ne s'agit pas d'idéaliser ici ce modèle de propriété sociale partagée des entreprises, qui a ses limites, mais simplement de constater qu'il peut être au moins aussi efficace économiquement que le modèle de capitalisme de marché anglo-saxon, ou stockholder model, où tout le pouvoir repose en théorie chez les actionnaires, en pratique tout est toujours plus complexe, et surtout qu'il implique mécaniquement une valorisation de marché plus faible pour les sociétés sans que la véritable valeur sociale soit nécessairement plus faible. Ce débat entre les différentes formes de capitalisme avait commencé à se développer au début des années 1990, après la chute de l'Union soviétique. Puis il avait perdu de son intensité, sans doute en partie parce que le modèle économique allemand semblait en perte de vitesse dans les années suivant l'unification. En 1998-2002, l'Allemagne était souvent présentée comme l'homme malade de l'Europe. Compte tenu de la relative bonne santé allemande face à la crise financière mondiale de 2007-2012, il n'est pas impossible que ce débat revienne sur le devant de la scène dans les années à venir.